au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Il y a des livres dont la publication, la sortie, est un réel événement en termes d'édition et qui pourtant ne rencontreront qu'un nombre limité de lecteurs. Il y a des livres qui exigent des années et des années de travail d'érudition et qui risquent de n'être appréciés que d'un cercle restreint de spécialistes. Il y a des livres dont la grande presse, écrite ou télévisée, ne rendra sans doute pas compte, mais qui ne saurait échapper à l'attention de Canal Academy. Et c'est le cas du livre dont nous allons parler aujourd'hui dans cette émission Au fil des pages. C'est un livre en latin. Vous comprendrez d'emblée que seuls les latinistes pourront en goûter tout le style. C'est un livre qui a exigé 18 ans d'un travail collectif et international d'érudition. Et pour nous expliquer l'histoire de cet ouvrage et son intérêt, j'ai le plaisir de recevoir M. André Vaucher, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. M. Vaucher, bonjour.
Bonjour, madame.
Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. Vous êtes médiéviste, unanimement reconnu comme l'un des grands maîtres de l'histoire religieuse de l'Occident médiéval, et rien de ce qui concerne la sainteté, la géographie, le monachisme, les mouvements, la papauté, les pratiques, les mentalités religieuses du Moyen-Âge n'échappe à votre érudition. On vous doit de nombreuses publications, des outils de travail incontournables pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du christianisme et au Moyen-Âge en particulier. On vous doit l'histoire du christianisme, 14 volumes je crois.
Oui, mais enfin, que je n'ai pas fait tout seul.
Non, pas tout seul, mais tout de même, la direction. Et le dictionnaire encyclopédique du Moyen-Âge, et vous me pardonnerez de ne pas citer ici tous vos ouvrages, mais ils seront cités sur notre site internet et sur le site de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, bien sûr. Monsieur Vaucher, vous êtes membre de cette Académie depuis le 13 novembre 1998. Alors, dans votre carrière, vous avez occupé des postes prestigieux. Au moins, j'en retiendrai trois. Vous avez été entre 72 et 79 directeur des études médiévales à l'École française de Rome. Et depuis 1995, vous êtes directeur de l'École française de Rome. Alors, j'aimerais bien que vous parliez un peu de cette École française de Rome. Quel est son rôle ?
Alors j'en dirai deux mots, parce que d'abord j'en suis plus directeur, je l'ai été pendant 8 ans, de 1995 à 2003, et donc ça fait quand même déjà un petit bail que je l'ai quitté, mais c'est évidemment un établissement qui m'est cher, puisque j'y avais déjà été comme chercheur de 1965 à 68, puis comme directeur de la section médiévale, comme vous venez de le dire, de 72 à 79. Bien, c'est ce qu'on appelle en France un grand établissement de recherche qui est spécialisé dans l'archéologie et l'histoire. Il a été fondé dans les années 1875, donc c'est une institution qui est déjà assez ancienne, à une époque où pratiquement tous les pays, les grands pays européens, fondaient des établissements de ce genre à Rome, parce que c'était l'époque des grandes découvertes archéologiques, et c'était l'époque aussi, et surtout peut-être pour nous historiens, de l'ouverture au public des archives du Vatican. Et donc il y a eu une ruée à partir des années 1880 sur ces archives qui ont permis de découvrir toutes sortes de sources et de choses importantes sur l'histoire des différents pays européens, au Moyen-Âge en particulier, mais pas seulement. Voilà, donc dans ce vaste mouvement européen, la France a créé très tôt une école à Rome qui est installée au Palais Farnèse, dans le même
palais magnifique
que l'ambassade de France. Qui sont les deux institutions sont entrées en même temps dans ce palais. Et surtout qu'il ne faut pas confondre avec la Villa Medici, qui elle forme les artistes, l'historien d'art, et qui est sur une autre colline de Rome.
Alors, quand on est membre de cette école, comme vous, on fait des publications
Voilà, alors on est chercheur, donc on fait en général une thèse, parce que le cursus universitaire le veut, mais sur un sujet soit italien, soit dont la documentation se trouve en Italie ou au Vatican. Voilà. Donc viennent là des chercheurs qui travaillent sur l'histoire, sur l'Antiquité bien sûr, il y a tout l'aspect archéologique, les fouilles, depuis les Étrusques, les Grecs jusqu'aux Romains, et au Moyen-Âge, et puis ensuite il y a les médiévistes proprement dit, donc, et puis des spécialistes d'histoire moderne, et maintenant, depuis une quinzaine d'années, aussi des spécialistes de l'histoire contemporaine qui travaillent par exemple sur le fascisme ou sur la démocratie chrétienne. Donc toutes les périodes de l'histoire maintenant ont droit de citer à l'école française, qui regroupe une bonne vingtaine de chercheurs permanents, et puis de nombreux boursiers, archéologues de passage ou associés, etc.
Ça donc a été un moment passionnant de votre vie.
Absolument. J'ai passé en tout 18 ans de ma vie à Rome, donc en 3 séjours différents.
Mais on ne va pas vous plaindre.
Je ne vais pas me plaindre. Et d'autre part, les gens que j'ai pu y rencontrer, aussi bien sur le plan français que sur le plan italien et international, parce que Rome est aussi un lieu de rencontre extraordinaire pour les gens, les savants de tous les pays. Donc ça a été une expérience tout à fait marquante pour moi.
Alors, j'ai noté aussi que vous étiez directeur d'un groupe de recherche qui s'appelle Gerson au CNRS. Alors, qu'est-ce que le groupe Gerson ?
Alors, le groupe Gerson, c'est un groupe de recherche donc du CNRS qui travaille sur l'histoire religieuse du Moyen-Âge, essentiellement en France, mais pas seulement. Alors, on a pris ce sigle Gerson parce que Gerson est un grand... disons prédicateur et homme d'église de la France du XVe siècle, donc c'était une figure phare, disons, d'autant plus que nous travaillons surtout sur la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, et c'est précisément dans le cadre de ce GDR, comme on dit au CNRS, ça veut dire groupement de recherche, Gerson, que nous avons commencé, entre autres choses, à travailler en séminaire sur ce fameux Liber Ostensor.
Dont nous allons parler.
Dont nous allons parler, voilà.
Encore un petit mot, parce que ma curiosité est sans limite. Je crois que vous êtes membre aussi de l'Académie des Linci à Rome.
Linchei, oui.
Des lynx, on dit
en
français.
Les lynx en français, si on voilà. veut, c'est un peu l'équivalent.
Mais c'est une prestigieuse académie qui
tout
est
à fait,
très
c'est
ancienne.
Exactement,
oui.
L'équivalent de l'Institut en France. Elle est un peu plus ancienne, puisqu'elle remonte au milieu du XVIIe siècle. Mais elle a à peu près la même structure, avec à la fois des spécialistes des sciences humaines, sociales et, comme on dit aujourd'hui, des sciences dures.
Alors André Vaucher, maintenant que nous vous connaissons un tout petit peu mieux, parlons donc de ce livre dont je disais qu'il était à la fois un événement et une interrogation, un livre dont vous avez assuré l'édition critique publiée par l'École française de Rome. Il s'agit du Liber Ostensor. Alors disons que c'est un livre de prophétie et vous allez nous en raconter la genèse.
Voilà, eh bien d'abord je confirme que c'est un livre en latin, donc évidemment un peu austère. Je précise cependant qu'il y a un résumé, plus qu'un résumé, une analyse très détaillée en français, presque chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe, qui permet quand même à un lecteur ignorant le latin ou le sachant mal de prendre connaissance, disons, de la substance du volume sans avoir à le lire de A à Z. Donc c'est bien pratique quand même. Voilà, et puis il y a de longues introductions, des appendices, des index, bref. C'est un travail complexe et c'est pour ça d'ailleurs que ça a duré si longtemps. J'ai travaillé sur ce livre, préparé cette édition avec une équipe d'une douzaine de personnes. Donc c'est vraiment un travail collectif et de longue haleine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Eh bien d'abord, parlons un peu de son auteur. C'est un personnage pas très connu, au moins en tout cas du grand public, qui s'appelle Jean de Roquetaillade, une personnalité très intéressante. C'est un franciscain qui a vécu en France disons, la première moitié du XIVe siècle. Il est mort, semble-t-il, on n'a pas exactement sa date de décès, mais il semble être mort en 1366. Il avait dû naître vers 1305, 1306, donc il a vécu une soixantaine d'années. Et il a eu un destin assez peu commun. D'abord, il est entré chez les franciscains à l'âge adulte, après avoir fait les études universitaires. Et c'était un esprit très cultivé. Il avait des notions de non seulement de philosophie et de théologie, bien sûr, mais aussi de sciences, comme on dirait aujourd'hui. Par exemple, il a rédigé des traités d'alchimie, donc il s'intéressait à toutes sortes de choses, et pas seulement à la prophétie. Mais il a fait très vite, donc il est entré à l'âge adulte dans la province d'Aquitaine, il a fait ses études à Toulouse, il est entré chez les franciscains d'Aquitaine, et là, il n'a pas tardé à se signaler à l'attention de ses supérieurs et à se faire mal voir, parce qu'il a commencé à annoncer qu'il allait se passer les choses terribles. Il a annoncé la venue de l'Antéchrist, rien de ça. Alors l'Antéchrist, un personnage mystérieux dont parle le livre de l'Apocalypse, dans le dernier livre du Nouveau Testament, où on dit qu'avant la fin des temps viendra un personnage qui séduira même les élus, même les bons chrétiens, et qui essaiera de... qui provoquera l'apostasie de tous les, une bonne partie des chrétiens. Et le Christ, à ce moment-là, descendra du ciel, le tuera, et ce sera la fin du monde. Donc c'est un personnage qui fait partie de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire le discours
sur la fin des temps. Voilà.
Donc,
et Jean de Roquetaillade avait une vision. Comment ça s'est passé, sa prophétie?
Il avait un tempérament, donc c'était un intellectuel, mais en même temps, ce qui est très intéressant, il avait aussi un tempérament très sensible, très sensitif. Il avait des visions, il a eu des visions de la Vierge. Et un beau jour, il a vu, il a vu l'Antéchrist qui venait de naître. Alors il s'est dit, il est temps de se réveiller parce qu'il va se passer des choses terribles. Et donc, il a mis par écrit tout ce qu'il voyait ou prévoyait. Il a écrit plusieurs livres, mais une bonne partie ont disparu. Et donc, il a commencé à secouer un peu ses confrères d'abord, dans l'ordre franciscain, et puis l'opinion publique, ou en tout cas ecclésiastique, en disant il faudrait absolument qu'on bouge, qu'on change, parce que sinon il va se passer des choses terribles.
Il faut dire que la période était un peu agitée. 1350, dans l'Église, ce n'était pas, idéale.
Il arrive vraiment au pire moment, on peut le dire, et à tout point de vue, puisque c'est le début de la guerre de Cent Ans en France, et les grandes défaites françaises, Poitiers, etc. Donc il est vraiment au cœur de la crise nationale française. Il est au cœur de la crise de l'ordre franciscain, qui est déchiré par des conflits internes entre les partis d'une pauvreté absolue, et puis ceux qui pensent que finalement
on peut s'accommoder
avec le siècle. Et donc là, il y a des tirages, plus que du tirage, il y avait un véritable conflit ouvert. Il y a des conflits très violents entre la papauté et certains princes temporels, en particulier l'empereur Louis de Bavière. Nous sommes dans une époque extrêmement dure et dans laquelle les tensions se multiplient. Voilà. Donc dans ce contexte, que fait Roquetaillade? Eh bien, il essaye d'interpréter les signes des temps, comme il dit, c'est-à-dire les choses qui se passent autour de lui. Et c'est pour ça qu'il est si intéressant, parce qu'il nous parle de tout ce qui se passe autour de lui. Alors, autour de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord dans l'ordre franciscain, puisqu'il est franciscain, mais comme il est mal vu, il passe 15 ans de sa vie en prison.
En prison?
Il a été de prison en prison, très maltraité, il nous a laissé des passages absolument bouleversants sur ses conditions de détention. Il a failli mourir de la peste en prison en 1348. Et finalement, alors qu'on l'emmenait dans une autre prison, à cause de ses idées un peu subversives, le frère qui l'accompagnait a pitié de lui et l'emmène à Avignon. Alors on va dire, quelle idée d'aller à Avignon? Avignon pour trouver le pape.
Oui,
parce qu'il s'est dit, au moins le pape aura pitié de moi.
Territoire de la papauté.
Donc il arrive à Avignon et au palais des papes. Nous sommes à l'époque de la papauté d'Avignon. Les papes résidaient sur les bords du Rhône. Donc un beau jour, il se présente à une audience publique et il dit, voilà, on m'accuse de tous les maux, mais je ne suis pas hérétique. Alors en ce moment-là, on le remet en prison et puis on commence à lui faire son procès. Et puis au bout de quelques temps, c'est vrai quelques années, on s'aperçoit qu'il n'est pas vraiment hérétique, qu'il dit des choses qui peuvent déplaire ou énerver, mais qu'il n'est pas vraiment hérétique. Mais comme il a une mauvaise réputation, un peu subversive, on ne le remet pas en liberté. On fait, comme on dit aujourd'hui, on le met en liberté surveillée. C'est-à-dire qu'il est en prison, mais une prison assez douce. Il peut avoir des livres, il peut écrire, il peut travailler. Donc il restera comme ça pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, entre 1349 et 1366. Donc pendant une quinzaine d'années, un peu plus, il va rester à Avignon. Donc il n'a pas le droit de s'éloigner d'Avignon, mais en même temps, il peut écrire. Et à ce moment-là, il écrit énormément.
Est-ce que ses écrits sont largement diffusés? Enfin, évidemment, on sait qu'à l'époque, tout le monde ne lisait pas, bien sûr.
C'est difficile à savoir, parce que ce livre donc, que nous avons édité, il n'en subsiste plus aujourd'hui qu'un seul manuscrit. Mais ça ne veut rien dire, ça veut dire peut-être simplement que les autres ont été détruits, parce que justement ils véhiculaient des idées...
Brûlés, on ne sait pas.
Oui, s'ils ont été détruits, ils ont été détruits volontairement, je pense. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il était connu. Il n'est pas resté dans l'ombre de son temps, parce que les grands chroniqueurs de l'époque, par exemple Froissart, en parlent longuement. Jean de Venette, un autre chroniqueur français du XIVe siècle, nous a fait un beau portrait de Jean de Roquetaillade. Et il est très connu, alors en Angleterre, dans les pays Catalogne, Aragon, enfin en Espagne, disons. Il est même connu à la fin du XIVe siècle dans la Bohème, où il y a des courants contestataires, enfin le mouvement hussite, etc. Parce que ces écrits ont été ensuite récupérés, utilisés par tous ceux qui contestaient l'Église romaine, la papauté. Et donc, il est resté célèbre comme une sorte de contestataire institutionnel, si vous voulez.
Alors, quel est l'intérêt, André Vaucher, aujourd'hui, de publier un tel ouvrage? C'est évidemment un document, mais y a-t-il d'autres intérêts?
Alors, je dirais que ça reste un ouvrage intéressant, d'abord parce qu'il était encore inédit, mais ça ne suffit pas à justifier évidemment tant d'efforts pour le mettre à la portée, sinon du grand public, du moins du monde de savants. C'est un texte important d'abord parce que Roctaya est une personnalité très intéressante, comme je disais, à la fois intellectuelle et visionnaire. Quelqu'un qui a une énorme culture, il a beaucoup lu, il fait énormément de citations. Donc c'est déjà un témoignage intéressant sur la culture d'un clerc au milieu du XIVe siècle. Et c'est un homme qui, étant à Avignon, étant visiblement très bien informé, il devait avoir des réseaux d'amis dans la curie, où il parle de toute une série de faits, d'événements politiques, religieux, de son temps. Et donc ce qu'il nous apprend est parfois original. Il y a des choses qu'on ne savait pas, que lui nous explique, ou qu'on n'avait pas bien comprises, et que lui nous explique.
Donc c'est pour les historiens, c'est un document précieux.
Ça apporte du nouveau, si vous voulez, sur non seulement la papauté d'Avignon, mais aussi les problèmes de l'Europe du temps, d'autant plus qu'Avignon était la capitale de la chrétienté à l'époque, donc toutes les nouvelles affluaient. Il nous parle aussi des juifs, des musulmans, de toutes sortes de peuples. Donc on a une quantité d'informations de première main, disons, à travers lui sur ce qu'on pouvait connaître à Avignon du monde de l'époque. Voilà, donc c'est aussi un témoignage intéressant. Et puis je dirais qu'il nous intéresse par son côté prophétique, justement. Alors lui-même, sur ce point, il est un peu ambigu. Il dit à plusieurs reprises, je ne suis pas un prophète. Peut-être qu'il dit ça pour ne pas avoir d'ennui, parce que les prophètes n'est pas toujours bien vu ou bien reçu. Nul n'est prophète en son pays. Et donc, peut-être qu'il disait ça aussi pour se garder un peu de l'inquisition qu'il avait à l'œil. Mais, d'un autre côté, il est peut-être aussi tout à fait sincère. C'est-à-dire qu'il ne fait pas lui-même des prophéties. Il ne dit pas, il ne prétend pas être inspiré par Dieu directement, mais il dit « Dieu m'a donné l'intelligence des prophéties », c'est-à-dire la capacité de comprendre les prophéties des autres, celles qui sont antérieures, et de savoir les lire, savoir quand est-ce que les choses annoncées vont arriver, quand est-ce que telle chose va se produire, etc.
Mais est-ce que les prophéties, c'est pas quelque chose d'assez courant à ce moment-là,
alors, au XIVe siècle? Vraiment, c'est la grande époque, c'est la XIVe, XVe, c'est la grande époque des prophéties. Il y en a effectivement partout. On en attribue à toutes sortes de gens, des vrais ou des fausses, peu importe. En tout cas, effectivement, ce traité, cet ouvrage, nous donne véritablement un aperçu de cette littérature prophétique, d'autant plus que Roctayade cite parfois des pages entières de prophéties de son temps qui ne sont connues que par lui. Donc là aussi, c'est un intérêt du volume, c'est que à travers lui, à travers les longues citations qu'il en fait, on récupère toutes sortes de textes qu'on connaissait vaguement ou qu'on ne connaissait pas du tout, et dont il nous donne le texte partiel ou complet. Ouais. Donc c'est un véritable répertoire des prophéties de la fin du Moyen-Âge.
Est-ce que vous considérez que c'est aussi un chef-d'œuvre d'écriture?
Alors, je dirais que là, évidemment, c'est plus difficile à apprécier puisque c'est en latin, mais c'est un homme qui écrit bien, à mon avis. Il écrit trop, il est très prolixe. Parfois, on a l'impression qu'il pourrait dire plus brièvement ce qu'il dit un peu longuement. Mais il a c'est un homme, je dirais, de morceaux choisis. C'est-à-dire qu'il y a dans son traité des passages de développement un petit peu fastidieux. Et puis, on tombe sur quelques pages absolument fulgurantes. Surtout quand il parle de lui à la première personne, qu'il évoque ses souffrances, sa captivité, les persécutions dont il a été l'objet. Et là, il devient très émouvant. Donc je crois que, bon, je ne dirais pas que ça se lira jamais comme un roman policier,
mais c'était un document à publier.
Il y a dans ce livre des passages qui mériteraient d'être traduits en français sous forme de morceaux choisis et qui donneraient une très très bonne idée de ce qu'a été cette littérature latine de la fin du Moyen-Âge, où il y avait encore des gens et qui étaient vraiment des créateurs qui maîtrisaient pleinement le latin, mais qui en même temps pensaient déjà, on le voit très bien, ils pensaient en français, enfin ils pensaient dans la langue de leur temps, mais ils écrivaient en latin.
Mais ils écrivaient encore, une langue d'écriture.
C'était la langue des clercs, la langue des ecclésiastiques, mais la pensée n'est plus la pensée latine classique, c'est la pensée moderne de l'époque.
Alors André Vaucher, on l'a dit, cet ouvrage d'érudition a nécessité 18 ans de travail. Je suppose que ce n'est pas 18 ans d'affilée, mais enfin, vous ne vous êtes jamais découragé, vous avez toujours poursuivi la preuve d'ailleurs.
Vous avez touché au vif, là, parce que effectivement, quand on dit 18 ans, c'est une façon un peu théorique. Disons qu'il y a eu une période au début où nous, mon équipe et moi avons vraiment fait beaucoup travailler. D'abord parce qu'on venait de découvrir ce texte, donc on était passionnés. Donc pendant les cinq ou six premières années, nous avons
où l'a-t-on découvert justement? Comment l'avez-vous découvert?
Il était à la bibliothèque du Vatican. Oui. Et c'est une, il n'était pas inconnu ce manuscrit, il y avait une dame très érudite. Ancien membre de l'École française de Rome, d'ailleurs une ancienne chartiste, Madame Bignami Audier, qui l'avait découvert dans les années 1930 et qui en avait déjà fait, je dois dire, la transcription, c'est-à-dire elle transcrit le manuscrit en latin sur, enfin, en écriture moderne. Donc ça nous a déjà gagné du temps. Et puis Madame Bignami, malheureusement à la fin, enfin, a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle a travaillé beaucoup à la Bibliothèque Vaticane et elle a toujours remis l'édition parce que c'était un gros travail. Et puis, quand elle aurait eu le temps de s'y mettre, elle est malheureusement devenue presque aveugle. Et donc, au début des années 80, elle m'a dit un jour qu'elle ne ferait jamais et que si je voulais le faire, elle me passait très volontiers sa transcription, ce qui était évidemment faire preuve d'une grande générosité. Donc, nous sommes partis de cette transcription, ce qui permettait déjà de voir assez vite le contenu. Et ensuite, il a fallu donc faire des centaines de notes, parce que Roch Tayat fait allusion sans arrêt à des événements, à des personnes, à des situations qu'aujourd'hui...
qu'il faut expliquer, bien sûr.
Qui ne disent plus rien quand on le voit comme ça. Donc, il ne suffisait pas de faire une édition, simplement mettre les mots latins, il fallait mettre des notes pour éclaircir à chaque fois le contexte. Ça veut dire à quoi, à qui il se référait. Et c'est ça qui nous a pris le plus de temps. Alors, il y a eu une période, donc 5-6 ans au début, on a vraiment été tout feu, tout flamme. Et puis ensuite, ça s'est ralenti, c'est vrai, c'est normal. Moi-même, j'ai été nommé à ce moment-là donc directeur de l'École de Rome. C'était une lourde responsabilité. Pendant 4 ou 5 ans, j'ai ralenti nettement mon rythme. Et puis finalement, bon, de fil en aiguille, nous nous sommes dit, c'est pas possible qu'un travail qui est déjà fait aux deux tiers reste comme ça inachevé. Nous nous sommes remis, on a fini par donner le manuscrit à l'imprimeur en 2002, je crois. Donc en fait, dire qu'on y a travaillé vraiment une dizaine d'années, mais c'est déjà pas mal.
Alors, nous parlons avec André Vaucher du Liber Ostensor, dont on va tout de même dire le titre en entier, Liber Ostensor, quod ADC festinant tempora, ce qui veut dire donc le livre qui montre ce qui va arriver dans les temps qui viennent. C'est
voilà,
ça à peu près qu'on peut traduire,
enfin,
ce qui est imminent.
Parce que lui est persuadé que cette crise justement grave que va connaître la chrétienté, l'Église, il la date d'après justement des textes prophétiques antérieurs, bibliques, certains et d'autres plus tardifs. Ils disent que la crise va vraiment atteindre son
paroxysme,
dans les années 1362-1365.
Donc, et c'est ce qui est arrivé?
Pas exactement, mais il y a eu pas mal de crises dans ces moments-là.
Est-ce qu'il est bon prophète en vérité?
Il est bon prophète, même encore meilleur qu'on aurait pu le croire, parce que dans ce livre-là, Il dit qu'il va y avoir à l'occasion de cette crise, il va y avoir une division de l'Église, et en particulier une division des cardinaux. Donc il va y avoir un schisme. Or, il annonce ça 20 ans avant le grand schisme. Hein. Or, le grand schisme, 1378, Roch Tayat écrit en 1356.
50, oui, c'est ça.
Donc sur le moment, on n'y a pas tellement prêté attention. Et puis après coup, justement, à titre posthume, il est devenu encore plus fameux. Parce que les gens se sont dit, mais il y avait quelqu'un qui avait annoncé ça, qui avait annoncé ce qui allait se produire, le grand schisme, c'est-à-dire justement l'éclatement de l'Église entre deux papotés.
Oui, on a même eu deux papes, trois papes, je crois. Enfin, ça a été un moment difficile.
On l'a considéré encore plus avec respect après 1378, parce que même s'il n'avait pas bien daté, un événement qu'il avait annoncé avait fini par se produire. Oui. Voilà.
Très bien, alors je rappelle que ce Liber Ostensor, si on est intéressé, on peut se le procurer. Il est publié par l'École française de Rome, sous la direction donc d'André Vaucher. Et je voudrais remercier André Vaucher d'être venu nous en parler. C'est un livre d'érudition, mais c'est aussi un livre qui témoigne de toute votre passion pour le Moyen-Âge. Et on sait qu'elle est très grande. Merci, monsieur Vaucher.
Merci beaucoup, madame.